historien Philippe Fabry nous a rejoint. Mathieu Boccoté, c'est à vous.
Alors Philippe Fabry, bonsoir.
Bonsoir.
Alors question première, donc au tout début de ce conflit, il y avait l'hypothèse optimiste, une opération, vous me direz, est-ce que vous en, une frappe quasi chirurgicale sur le régime iranien et qui permettait par ailleurs rapidement les Occidentaux auraient pu s'en détourner, leurs objectifs ayant été vite atteints. L'autre pôle de la réflexion, c'était la possibilité de l'embrasement régional. Vous voyez ce soir ces frappes iraniennes sur Israël, sur le site nucléaire israélien. Que vous inspirent ces frappes iraniennes ce soir?
Alors, ce que ça m'inspire, c'est vraisemblablement une riposte à l'attaque qui a été faite sur Natanz. On voit que depuis plusieurs jours, il y a derrière les échanges de frappes, il y a une espèce de dialogue armé. C'est-à-dire que vous nous tapez ce genre d'installation, on montre qu'on est encore capable de le taper. Et il y a une tentative qui est toujours plutôt celle de la dissuasion côté iranien. Je pense qu'autre chose, il faut attendre de voir exactement ce qui a été touché. A priori, il n'y a que des civils qui sont blessés. Est-ce que c'était des civils chercheurs ou militaires? Enfin, a priori, pas des militaires, donc j'aurais du mal à commenter plus sur ce fait en particulier.
Alors, au point de départ donc, de ce conflit, si je vous ai bien lu, vous aviez l'impression que l'Iran était rapidement, sinon anéanti, bien évidemment, mais très, très, très affaibli. Or, on a l'impression, le conflit dure, bah, tout le moins, aujourd'hui, on pense que ça dure longtemps quand ça se compte en semaines. Est-ce que nous sommes entrés dans une guerre de longue durée en Iran?
Alors, le truc surtout, c'est que d'après moi, on est déjà dans une guerre de longue durée en Iran. C'est-à-dire, pour moi, la guerre, le mouvement qui sera, à mon avis, plus tard reconstitué par les historiens comme une guerre, a commencé en 2019. Si vous voulez, je peux faire un point là-dessus, j'essaie d'être rapide. En 2019, l'Iran s'est trouvé un petit peu dans la position qui était la plus favorable depuis la révolution islamique. C'est-à-dire qu'il sortait, c'était la victoire sur l'État islamique, qu'il n'a pas vaincu tout seul, mais enfin, il avait réussi avec... Il était allié objectivement avec les Occidentaux sur ce coup-là. Et donc, il se retrouverait véritablement en position de candidature à l'hégémonie, on va dire, au Moyen-Orient, parce qu'il contrôlait tout le fameux croissant chinois.
Il pouvait devenir la puissance régionale.
Voilà. Et en fait, c'était ça l'objectif. Et on l'a vu très vite, parce que fin 2019, ça a été un peu oublié aujourd'hui, mais il y a eu les fameuses frappes sur les installations pétrolières saoudiennes, qui ont été faites avec ce qu'on ne connaissait pas à l'époque, maintenant on est habitué, mais ça a été les premiers à faire ça, c'est-à-dire une frappe combinée de drones suicides et de missiles. Ils ont fait ça en septembre 2019. Et ils ont expliqué que c'était les outils qui avaient tiré ça, les outils du Yémen. Mais tous les experts internationaux admettent que c'était l'Iran qui était à la manœuvre. Et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il y a une volonté iranienne de transformer l'essai un petit peu de l'hégémonie régionale et qu'à côté de ça, il y a des moyens. Et ces moyens, c'est les proxys, comme les outils, mais aussi les milices iraniennes, pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Et c'est les drones et les missiles qui sont en train de déployer massivement à cette époque-là. Et j'ai envie de dire, l'apogée du mouvement vers l'hégémonie de l'Iran, ça a été en 2023, mars 2023, avec les accords avec l'Arabie Saoudite qui ont rétabli de vieux accords de coopération. L'Arabie Saoudite, vraisemblablement, a accepté de d'une certaine manière, de plier le genou devant l'Iran parce qu'elle avait vu la catastrophe du retrait américain en Afghanistan, elle avait vu que les Américains ne faisaient pas grand-chose en Ukraine, et donc l'Arabie Saoudite commençait à se dire que la protection américaine, finalement, ce n'était pas tellement ça. Et là où ça a dérapé pour l'Iran, qui a essayé d'avancer comme ça sa stratégie, l'aboutissement aurait été d'arriver à l'arme nucléaire, parce qu'à ce moment-là, ils étaient capables de contrôler les deux principaux détroits stratégiques du monde, Bab el-Mandeb et Hormuz, et en même temps de sanctuariser leur territoire. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire que le Hamas, sans véritablement de concertation avec les autorités iraniennes, qui était peut-être un peu désorganisé parce que l'architecte de toute cette stratégie iranienne, Donald Trump l'avait fait éliminer, c'était Soleimani en 2020, juste après les frappes justement sur les installations pétrolières arabes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vraisemblablement, le Hamas s'est dit, c'est bon, maintenant l'Iran est assez puissant, on va déclencher la guerre régionale qui permettra d'en finir avec Israël. Et là, le problème, c'est que l'Iran n'était pas tout à fait prêt à ça. Et depuis deux ans, ça a lancé une séquence inverse, finalement, qui est un recul quasi permanent de l'Iran. C'est-à-dire ils ont perdu la Syrie, ils ont perdu l'essentiel de leur influence au Liban, qui est en train de continuer à être démantelé. Et les Houthis sont toujours pas rentrés dans la guerre à leur côté. Donc on voit qu'il y a un affaiblissement. Et donc en fait, moi, j'interprète pas ce qu'on voit depuis trois semaines comme une attaque tout d'un coup, un démarrage d'un conflit qui n'existait pas par les Américains. Je vois ça plutôt comme une espèce de tentative d'offensive finale vers un pays qu'on a tenté de dissuader à plusieurs reprises sur les sept dernières années sur ses ambitions régionales. Ça n'a jamais marché, la dernière fois avec la guerre des 12 jours. Et donc Donald Trump a décidé d'y aller. D'autant plus que tout ça s'inscrit dans un contexte global, c'est que l'Iran est le seul membre de l'alliance des quatre, on va dire, qui menace l'hégémonie américaine mondiale, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. C'est le seul qui n'est pas nucléaire, donc c'est celui sur lequel on peut aller taper pour dissuader les autres.
Alors, vous nous avez rappelé le contexte de ce conflit. Par ailleurs, les frappes, là, donc on cherche à comprendre, par exemple, on entend souvent que les Américains et Israël n'auraient pas nécessairement les mêmes objectifs de guerre. Dans le cas d'Israël, il s'agirait de faire tomber un régime pour des raisons existentielles, parce que c'est un régime qui veut l'anéantir. Dans le cas des Américains, on cherche à comprendre quelle est une forme d'ambiguïté stratégique. Est-ce qu'il s'agit pour eux de détruire les capacités nucléaires, de détruire les capacités militaires, de faire tomber le régime, de transformer le régime en régime soumis, vassalisé? Que comprenez-vous du sens de cette opération maintenant ?
Alors, moi, je ne parlerai pas de divergence entre les Américains et les Israéliens. Simplement, je pense que les Israéliens sont plus jusqu'au boutiste dans l'attaque. C'est-à-dire que pour eux, c'est forcément la chute du régime qui doit être recherchée, parce que tout le reste risque de revenir si le régime ne tombe pas. Pour les Américains, ils sont sur une échelle, en fait. Ils sont partis, si on arrive à faire tomber le régime, c'est bien. Si on arrive juste à supprimer la menace régionale et à totalement oblitérer la capacité iranienne à établir une éventuelle hégémonie sur la région, ça sera déjà pas mal. Donc je pense que la divergence, elle vient surtout de là, et ça vient du coup, les Américains sont peut-être moins prêts à aller dans certaines directions, et les Israéliens, eux, y vont quand même, et on a vu que sur certains sujets, c'était plutôt les Israéliens qui poussaient un petit peu plus. Alors je dirais pas qu'ils manipulent Donald Trump, mais ils arrivent à jouer toujours à la marge pour éventuellement escalader peut-être un petit peu plus que les Américains ne le voudraient au moment où ils voudraient. Mais grosso modo, sur les buts, il y a un alignement. Le truc, c'est que les Américains se réservent éventuellement la possibilité de sortir avant, alors que pour les Israéliens, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout.
Arthur de Latrigan.
Alors justement, comment vous analysez les dernières déclarations de Donald Trump, il y a quelques heures, une dizaine d'heures, qui avait annoncé vouloir réduire graduellement, je le cite, les opérations ?
Alors, à mon avis, ce n'est pas totalement incohérent avec ce qu'il a dit dès le début. Parce que quand il a fait son discours au tout début, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit quand il a annoncé les opérations en Iran, justement la nuit où les opérations ont commencé. Parce que depuis, on a souvent dit qu'il espérait gagner en 3 jours. Alors, en réalité, il n'a jamais dit ça. Dès le début, il a dit, on part sur 4 ou 5 semaines d'opérations. Pour l'instant, le peuple iranien ne doit rien faire. Laissez-nous, en gros, casser la figure du régime. Et ensuite, vous bougerez. Donc, l'idée qu'à un moment, il soit prévu, une fois que les installations militaires ont été détruites, qu'une partie de l'appareil répressif qui a été lourdement visé est abattue, ben on fait une dégressivité dans les frappes pour voir si la sauce prend, on va dire localement, et si le peuple recommence à se soulever, ce qui est un des moyens d'essayer de faire tomber le régime.
Alors, peut-être à tort, je suis obsédé par ce qu'on pourrait appeler l'engrenage de 1914. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une guerre dans une zone où il y a des tensions entre les empires qui se partagent le monde, commencer une guerre dans une zone comme celle-là, on peut espérer que ça demeure une guerre locale, mais elle peut toujours devenir une guerre globale. Est-ce qu'il y a, il y avait probablement cette possibilité en Ukraine depuis 2022, il y en a même assurément, est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité, selon vous, d'embrasement régional qui, à terme, parce que l'Iran décide de frapper un peu partout, est-ce qu'il y a la possibilité d'un embrasement régional qui pourrait aller encore plus loin?
Alors, un embrasement régional, il y a des milices iraniennes qui peuvent être activées à l'extérieur. Les Houthis, peut-être, pourraient, si jamais ils n'ont pas appris la leçon ces derniers mois, essayer de recommencer à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Maintenant, s'il y a une coalition qui est en train de se faire localement, elle semble plutôt se faire contre l'Iran que le contraire. Donc, de dérapage dans ce sens-là, j'en vois pas trop.
Maintenant, avec la Chine, avec la Russie.
Alors, le problème est plutôt dans ce sens-là. Mais, alors, a priori, ils n'ont pas l'intention de bouger très vite, même si, semble-t-il, Vladimir Poutine a reconnu qu'il partageait des renseignements avec l'Iran. Mais ce qui me semble, c'est que du côté américain, il y a une certitude qu'en fait, la confrontation arrive à un moment donné. Et toute la politique de Donald Trump depuis un an, elle s'explique comme ça. Il y a d'abord une espèce d'urgence vécue à essayer de détacher la Russie de la Chine en obtenant éventuellement une paix forcée en Ukraine. Et désormais, je pense que ça a joué dans la décision un peu précipitée de frapper l'Iran, qui essaie d'essayer de régler la question avant qu'il y ait un autre front qui s'active.
Alors, vous ne voyez pas à court terme la Chine ou la Russie intervenir suffisamment directement pour qu'on se retrouve avec un choc des empires en Iran ?
Alors, le truc, c'est que pour l'instant, la Chine, son souhait, ça semble plutôt de continuer à avoir ces flux de pétrole qui arrivent qu'autre chose. Donc, elle a plutôt pris le parti de demander à l'Iran de ne pas bloquer le détroit d'Hormuz, qui est quand même son arme principale. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de dérapage de la Chine de ce côté-là pour l'instant.
Alors, vous disiez au début du conflit, parce que je vous suis avec attention, vous disiez, selon vous, l'Iran avait peut-être moins de missiles qu'on l'avait prévu, davantage de missiles, pardonnez-moi, qu'on l'avait prévu. Est-ce que vous aviez sous-estimé avec d'autres la capacité de riposte, l'enracinement de la République islamique? Est-ce que, autrement dit, vous êtes surpris de voir la vigueur de sa riposte sur presque un mois finalement?
Non, pas tellement, parce qu'en fait, le nombre de vecteurs utilisés par jour a énormément baissé depuis le début. On était à 200 dans les premiers jours, on est tombé à moins de 40, souvent moins. Ce qui est sûr, c'est que il semble qu'ils aient, plutôt que de tout lancer dès le début, ce qui semblait un petit peu attendu, parce qu'on s'imaginait qu'ils essaieraient de lancer les choses très rapidement pour éviter justement de se faire détruire le lanceur, comme ça avait été le cas en l'année dernière. Mais finalement, ils étirent les frappes et ils essaient vraisemblablement de jouer plutôt le temps long, ce qui est assez habile de leur part. Mais de l'autre côté, les capacités d'interception, semble-t-il, ont augmenté, puisqu'on est passé d'un petit peu plus de 90 à plus de 95% du côté américano-israélien. Donc, de temps en temps, il y en a un qui passe, comme on vient de le voir là. Mais la réalité, c'est que la plupart des vecteurs lancés quotidiennement sont arrêtés.
19h41 sur CNews, je me permets d'apporter les toutes dernières informations. Selon l'agence France-Presse, les frappes de missiles iraniens dans une ville israélienne abritant donc un centre de recherche nucléaire a fait, je vous avais donné le premier bilan d'une vingtaine de blessés, on passe à au moins 39 blessés, alors que le porte-parole du Magen David Adom, donc c'est les secouristes présents en Israël, interventeurs secouristes et ambulanciers, prodiguent des soins médicaux et évacuent au moins 47 patients vers l'hôpital Soroka, dont un garçon d'une dizaine d'années dans un état grave, pleinement conscient mais blessé par des éclats d'obus. Je me permets d'apporter ces toutes dernières informations.
Qui sont tout à fait essentielles. Alors, on parle de la République islamique, on parle du régime, on parle du changement de régime, la possibilité pour le régime de tomber, mais est-ce qu'on avait sous-estimé à quel point le régime était enraciné? Parce qu'on l'a vu de loin, souvent le récit sur l'Iran, c'est celui de la diaspora, de gens qui, par définition, conspuent avec raison la République islamique. On a vu des révoltes en Iran, mais là, en ce moment, est-ce qu'on est devant un régime finalement plus fort qu'on ne le croyait?
Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on croyait, en fait, parce que on a une espèce d'habitude médiatique maintenant d'attendre les résultats très très vite. On est dans des frappes qui ont commencé il y a 3 semaines, encore une fois. C'est extrêmement court. Il y a des tas d'offensives dans l'histoire militaire qui durent pendant 2 mois. L'offensive soviétique Bagration, par exemple, en 1944, elle dure plus de 2 mois. Donc, même la chute du régime de Saddam Hussein, il a fallu 1 mois et demi pour conquérir l'ensemble du territoire aux Américains.
Mais à l'époque, c'était la guerre par CNN. Maintenant, c'est la guerre par Twitter, Facebook et ainsi de suite.
Voilà. Alors, il y a peut-être.
Est-ce que la psychologie démocratique est capable de s'adapter à ce rythme de guerre?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a la psychologie des acteurs et puis il y a la psychologie des spectateurs. Je pense que la psychologie des spectateurs s'est beaucoup accélérée, alors que la psychologie des acteurs est restée ce qu'elle est normalement. Et notamment, je suis persuadé qu'il y a une bonne partie, en fait, qu'une bonne partie de l'appareil militaire iranien continue aussi à tenir parce qu'ils sont persuadés qu'il tient encore d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont vraisemblablement un petit peu dans le déni, finalement, de ce qui se passe. Après la mort de Khamenei, il y a eu la mort de Larijani. Ils ont un guide suprême dont on ignore s'il existe véritablement. Un commandement qui a été décentralisé en direction des commandants locaux. Alors, pour les commandants, je pense qu'ils ont peut-être le moral plus solide, mais pour les paramilitaires, les Basidji, tout ça, ça fait des gens qui, sans doute, petit à petit, se mettent à réaliser qu'on n'est plus dans la situation d'avant, qu'on ne vit plus dans le monde d'avant. Et donc, se dire qu'il n'y a pas eu les défections dans les 2 premiers jours ou dans les 2 premières semaines, je pense que ce n'est pas choquant. C'est méconnaître la psychologie humaine. Je pense qu'il faut quand même un petit peu plus de temps que ça pour réaliser qu'on a basculé dans autre chose.
Arthur de Vatrigan.
Il y a peut-être une nouveauté aussi, c'est le ton trumpiste ou Trump de Donald Trump, notamment sur la diplomatie. Je me rappelle pas d'avoir vu un chef d'État, notamment un grand chef d'État de la première puissance dans une guerre, user d'expressions comme bande de lâches, comme il l'a dit au prix de l'OTAN, de noter la France 8 sur 10, de dire des Anglais qu'ils le paieront plus tard. Ça, c'est aussi une nouveauté. Et comment l'analyser et comment d'ailleurs analyser la position de l'Europe et de la France dans ce contexte?
Alors, il y a une partie, je pense que ça vient du parcours personnel de Donald Trump, qui aime bien rappeler que d'une certaine manière, son éducation a été faite sur les chantiers new-yorkais. Donc, il a certains francs-parlers, il a plutôt cette habitude-là que celle des salons diplomatiques. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, qui est le fait que on peut désormais s'invectiver entre chefs d'État sur Twitter, en gros. Et il y a cette habitude qui a été prise. Donald Trump le faisait déjà à l'époque. Et en fait, est-ce qu'entre les chefs d'État, ces médias-là ne ramènent pas, finalement, à l'époque où on pouvait s'insulter de rue à rue, finalement, et où on se retrouve face à des gens qui sont plus comme des familles ennemies dans une cité italienne médiévale où les gens se détestaient et étaient toujours à portée de couteau, plutôt que des gens qui sont habitués à se parler par diplomate interposé, je pense que ça joue aussi dans la psychologie collective.
Alors, on voit, il y a des conflits, à tout le moins des tensions entre Trump et ses alliés de l'OTAN, ses alliés européens. Est-ce que cette guerre peut être un moment de rupture de l'OTAN, finalement? Est-ce qu'au terme de cela, on va assister à une accentuation, une aggravation de la faille atlantique?
Alors, ça, c'est possible. Alors, il semble y avoir un rapprochement qui se fait après un refus, notamment des Européens, initialement, d'intervenir pour essayer d'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Maintenant, je suis personnellement assez persuadé depuis le début de cette opération que, aussitôt qu'elle sera terminée, la question du Groenland reviendra sur le tapis, parce que il l'avait sorti juste après son succès contre Maduro. S'il a un succès en Iran, je pense qu'il le sortira aussi. Il y a d'autres choses aussi qui vont être contestées. Emmanuel Macron a mentionné le fait qu'effectivement il fallait faire quelque chose notamment pour le détroit d'Ormuz, mais en soulignant le cadre onusien. Or, souligner le cadre onusien, c'est s'opposer à Donald Trump, qui lui désormais préfère passer par son Board of Peace, son Conseil de la paix, qui doit être le moyen alternatif, on va dire, de gérer ça. Donc une des choses qui va être intéressante à observer, à mon avis, c'est de savoir quel rôle Trump va essayer de donner, parce que je pense qu'il va essayer d'utiliser ce conflit pour promouvoir encore sa nouvelle institution.
Alors, prenez-vous au sérieux la possibilité d'une forme d'effondrement intérieur, ou à tout le moins de liquéfaction intérieure de la base trumpiste? Manifestement, une majorité d'Américains a peu d'enthousiasme pour cette opération. Il y a les midterms dans quelques mois. Est-ce que cette guerre peut être la guerre de trop pour Donald Trump?
Alors, je ne suis pas sûr, honnêtement, en politique intérieure. Plus de 90%, d'après les sondages parus aux États-Unis, de la base MAGA, justement, soutiennent très fortement Donald Trump sur ce conflit. Donc, en réalité, on s'aperçoit que les influenceurs un peu dissidents ne pèsent pas grand-chose. Il y a l'attachement à la personnalité de Trump qui fait qu'il est suivi. Chez les Républicains, le soutien est un peu moins important, mais il est au-dessus de 60%, il est majoritaire. Et même dans la population américaine, on est je crois, au-dessus de 40%. Donc, ce n'est pas majoritaire, certes, c'est minoritaire. Mais enfin, ça reste, on sent que le socle de Donald Trump reste solide. Donc, dans l'immédiat, je ne vois pas de difficulté sur ce plan-là. Non.
Et que comprenez-vous de ça? Dans votre esprit, Trump, bon, il va arriver au terme de son mandat dans 3 ans. Que cherche-t-il? Il cherche à constituer une forme d'empire américain hégémonique. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre, tout comme la première guerre du Golfe, était la guerre hégémonique américaine, celle de George Bush père, pour montrer que nous sommes désormais un peu les maîtres du monde qui vient? Est-ce qu'on peut voir là une forme de guerre hégémonique pour affirmer la suprématie américaine dans le cycle nouveau qui commence?
Alors oui, alors ce qui est sûr, je disais, c'est que les Américains sentent qu'ils ont désormais un axe, où je parlerai d'un bloc eurasiatique un petit peu contre eux, Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, qui tentait de faire tomber l'Empire américain, de mettre fin à l'ordre international américain. Et donc l'idée, c'est de casser ça et frapper l'Iran, c'est un moyen d'essayer d'enfoncer un coin dans cette alliance. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une volonté américaine de Donald Trump de réorganiser effectivement l'Empire américain sous une même façon plus dirigiste, on va dire.
Alors, Arthur Latrigan.
Il y a eu quelques heures, l'attaque, le missile iranien qui est tombé sur la ville d'Imona, mais il y a eu encore avant une attaque, pour le coup, sur la base américano-britannique de Diego Garza, qui se situe à 4000 km de l'Iran. Est-ce que ça peut changer la perception des autres pays qui se disaient: ils sont trop loin, on se situe trop loin, il n'y a pas de risque pour nous?
Alors ça peut jouer, oui, effectivement. Alors bon, il faut voir exactement quelle sera l'analyse technique sur ce missile, parce que d'aucuns disent que s'il a pu aller aussi loin, c'est parce qu'il n'y avait pas de charge dedans et que donc c'était une tentative symbolique de faire quelque chose. Mais effectivement, plus de pays se sentent concernés, plus la volonté de faire tomber... Parce qu'il faut se souvenir, hein, d'ailleurs c'est ce que Donald Trump reproche aux Européens, il leur dit en gros, vous me reprochez mes méthodes, mais vous poursuivez les mêmes objectifs. C'est-à-dire, vous pensez qu'effectivement il fallait faire tomber ce régime, mais vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis. Donc ça peut être un argument pour essayer de leur montrer qu'ils ne sont pas à l'abri.
Il nous reste 1 minute 15, on voit l'Iran donc une capacité militaire réelle, une capacité de missile, et ainsi de suite. Est-ce que les Européens doivent craindre un jour de voir un missile iranien tomber sur leur territoire?
Alors ça peut arriver, puisque apparemment ils essaient de tirer sur absolument... tout le monde pour provoquer une espèce de lassitude et une pression sur les Américains. Mais jusqu'ici, ça a plutôt l'inverse. Donc, craindre que ça arrive, oui. Les conséquences, je ne suis pas sûr qu'elles iraient dans le sens que voudraient les Iraniens.
45 secondes avant la fin, une question. Comment expliquer la sympathie manifeste d'une partie des droites occidentales pour le régime iranien?
Je pense que c'est essentiellement par anti-américanisme, très honnêtement. Il y a ce souhait de voir les Américains patiner, et il y a toute une partie de la droite pro-russe d'ailleurs qui est dans cette idée-là, avec l'idée qu'il faudra en gros que les Américains montrent autant de difficultés que Vladimir Poutine en Ukraine. Pour moi, on n'est clairement pas dans ce qu'on observe depuis 3 semaines.
Un grand merci, Philippe Fabry, d'être venu sur notre plateau pour essayer de prendre un peu de hauteur et, et apporter votre regard sur la situation au 22e jour de guerre contre la République islamique en Iran, alors que les frappes sur la ville israélienne de Dimona sont une réponse à l'attaque ennemie. Réponse et ennemi, ce sont des guillemets, contre le site nucléaire iranien de Natanz. C'est la télévision d'État iranienne, du régime islamique iranien, qui vient d'apporter cette toute dernière information. Nous poursuivrons les discussions à partir de 20h avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, invité de l'heure des pros. Restez avec nous, c'est dans un instant sur CNews.